Sans détour.
On rejoint maintenant le docteur Félix Pajot, qui est gériatre, bioéthnicien et auteur, qui a co-dirigé l'ouvrage Robots and Gadgets Aging at Home. Bonjour, monsieur Pajot.
Bonjour.
Donc, le livre Robots and Gadgets Aging at Home, ça parle en fait de les aides à domicile pour les personnes âgées, mais qui peuvent aussi s'appliquer donc aux personnes en situation d'handicap.
Oui, effectivement, là, l'idée des robots, des applications d'intelligence artificielle, de maisons connectées, c'est pour aider les gens qui ont une autonomie différente ou qui sont en perte d'autonomie, en fait, liée aux problèmes cognitifs, au vieillissement. Donc, on parle de gérontechnologie, mais effectivement, toute personne en situation d'handicap pourrait bénéficier éventuellement de technologies du genre.
Qu'est-ce qui vous a porté à vous intéresser à cette question-là?
Ben moi, je suis gériatre et aussi j'ai fait une maîtrise en philosophie et en éthique. Donc, ça lie mes deux intérêts. Donc, la question à la fois de la population gériatrique. Donc, quand on parle de population gériatrique, c'est des gens âgés, oui, mais pas seulement. Des gens qui ont quand même des pertes cognitives, des problèmes de mobilité, souvent qui sont acquises par des maladies diverses, là, des problèmes d'arthrose, des problèmes des nouveaux nerveux, des nerfs, des neuropathies, des choses comme ça, et des troubles cognitifs. Donc, les gens, tranquillement, en vieillissant et en accumulant des maladies, deviennent de moins en moins autonomes dans leur maison. Puis, l'industrie propose toutes sortes de technologies pour les accompagner dans ces pertes d'autonomie fonctionnelle, là, vraiment au niveau de faire les tâches quotidiennes. Puis, il y a quand même des risques éthiques, des problématiques éthiques, des dilemmes éthiques qui peuvent survenir. Donc, de là mon intérêt pour ces questions de la robotique, mais aussi là, tout ce qui est application d'intelligence artificielle, surveillance du domicile, parce que les gens en veulent pour rester chez eux plus longtemps, mais en même temps, à quel prix, c'est là les questions qui m'intéressaient.
Effectivement, c'est quelque chose de complexe parce que ça peut donner une certaine liberté, mais en même temps, ça peut aussi restreindre la liberté jusqu'à un certain point. Parlez-nous, il y a des gens certifiés dans les maisons pour aider les soins aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées. À quoi ça peut ressembler?
Ben, il y a plusieurs technologies. Si on prend vraiment la maison imaginée du futur qui est connectée au complet, on penserait à des capteurs, soit thermiques, soit de mouvement, ou des capteurs même de caméra pour prendre des images. Puis ces images-là détectées seraient ensuite envoyées à un programme d'intelligence artificielle qui pourrait dire est-ce que c'est, par exemple, il y a une chute, est-ce qu'il y a un feu, est-ce qu'il y a un problème. Ça pourrait être connecté aussi à des détecteurs de fumée, des détecteurs au sol, des détecteurs sur le corps de la personne, là, à la fois des montres ou des colliers qui détectent les signes vitaux, donc la pression artérielle, le rythme cardiaque. Donc, toutes ces informations-là qui viennent soit directement des informations collectées sur la personne, des informations en distance avec des capteurs, des informations avec des capteurs au sol, tout ça serait des informations intégrées dans un ordinateur, disons, central avec un programme d'intelligence artificielle pour dire, ben là, oui, il y a un problème ou non, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème, la personne continue à vivre sa vie, à faire ses choses. S'il y a un problème, bon, est-ce qu'on détecte, est-ce qu'on envoie un appel à l'aide au 901? Est-ce qu'on envoie un appel au service d'aide d'une infirmière d'infosanté? Est-ce qu'on appelle directement à l'hôpital, un médecin traitant? Est-ce qu'on a rejoint la famille, des proches? Donc, ensuite, c'est ça. Donc, l'intelligence artificielle pourrait être détectée. Puis, à la limite, envoyer des robots. Donc, si la personne est tombée, est-ce qu'un robot pourrait être envoyé par la maison directement pour relever la personne? Ça, c'est une des choses quand on parle de chute, par exemple. Mais il faudra aussi avoir, quand la personne a de la difficulté à se cuisiner elle-même des repas, avec les atteintes cognitives, un robot qui pourrait cuisiner des repas, un réfrigérateur connecté qui pourrait détecter si la nourriture est périmée, ou s'il manque de lait, s'il manque d'œuf, puis envoyer directement une commande à l'épicerie, puis un robot viendrait livrer la nourriture directement à la maison, déposée dans le réfrigérateur. Donc, on pourrait penser vraiment à une maison connectée pour détecter des choses, mais aussi pour remplacer finalement les tâches des proches aidants ou du système actuel du CDC ou autre soutien à domicile. Donc, c'est vraiment l'idée de pallier à tous les manques que peuvent occasionner les atteintes cognitives ou les problèmes de mobilité en général ou ce qu'on appelle noir en gériatrie la fragilité, donc l'accumulation de problématiques de santé. Donc, ce serait l'idée.
Vous parliez également dans votre livre là, que l'intelligence artificielle pourrait aider les préposés à domicile, mais vous parliez du fait de pouvoir les aider à avoir une relation plus humaine avec leurs clients. Comment l'intelligence artificielle peut rendre les relations plus humaines? C'est pas quelque chose qui est contradictoire en quelque sorte?
Ben, ça pourrait l'être, effectivement. C'est l'idée de l'éthique, c'est d'aller guider justement dans la direction. Qu'est-ce que l'éthique nous dit? Ben, c'est quoi qu'on vise? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi nos valeurs? C'est quoi les principes qu'on veut suivre pour arriver à un certain but éventuellement? Puis, effectivement, quand on veut garder les soins plus humains, ben, peut-être que la machine peut faire les tâches répétitives, justement s'assurer qu'on a bien commandé la nourriture, qu'on n'a pas de nourriture avariée, qu'il y a un certain niveau où le ménage est fait. Donc, c'est passer la balayeuse, c'est pas nécessairement un soin humain, ou faire le lavage, c'est pas nécessairement un soin humain en soi. Donc, toutes les tâches qui sont répétitives, abrutissantes ou désagréables pour la personne ou ses proches, mais ça serait pris en charge par la robotique. La personne, elle, et son proche, ou les proches aidants, ou le personnel soignant du CLSC ou autre, ferait justement, bon, plus passer de temps à faire des activités agréables, discuter, prendre un café, faire le soin d'hygiène en soi. Donc, vraiment, l'éthique pourrait guider à dire, ben, c'est quoi qui est important pour la personne? Qu'est-ce qui représente un soin humain pour la personne et les soignants? Puis, laisser ces soins-là aux personnes humaines, puis tout ce qui est des soins qui sont désagréables, déshumanisants ou répétitifs, abrutissants, ben, serait fait par la machine. Ça, c'est l'idéal, mais effectivement, il y a quand même un risque que ce ne soit pas exactement ça qui se passe, dépendamment de la programmation, de la façon qu'on oriente les soins. Donc, l'idée de l'éthique, c'est de guider justement cette intelligence artificielle-là ou le développement de la robotique pour atteindre le but de garder les soins humains.
Ça pourrait quand même donner plus de temps aux préposés ou aux proches aidants là, avec la personne pour avoir du temps de qualité. Et on sait que les soins à domicile, là, on coupe de plus en plus dans les services. Donc, les préposés ou les proches aidants en font de plus en plus parce qu'on a de moins en moins de services qui font en sorte qu'ils sont débordés, en fait.
Bien, c'est ça. On manque de personnel partout. On a aussi des proches aidants souvent qui vont s'épuiser, ils ont fait des promesses, ils sont très dévoués, puis ils veulent pas laisser tomber en guillemets leurs proches, donc ils vont faire beaucoup, des fois trop même à s'épuiser. Puis le réseau, ben, il pallie plus comme il faisait avant. Là, l'État providence, on n'est plus là du tout. Là, on est vraiment dans un virage. La nouvelle administration publique de dire on réduit les coûts, on est plus efficace. Mais c'est pas des voitures ou des autos comme la méthode Toyota qu'on traite, c'est des êtres humains, puis avec leurs limites, leurs difficultés. Puis effectivement, quand on met sur l'efficience, ben des fois, et l'efficacité, on coupe un peu dans ce qui humanise les soins et on fait des tâches plus répétitives. Et c'est le risque avec la robotique, effectivement, que le robot ou l'intelligence artificielle se mettent à discuter avec la personne, avoir des relations, puis que les êtres humains soient reliés à des tâches répétitives et abrutissantes. Puis c'est plutôt l'inverse qu'on veut, le robot qui soit un outil, puis l'être humain qui continue à faire des soins au sens large du care à l'anglaise, où on se soucie, on est empathique, on prend le temps de jaser, de s'asseoir, de discuter, mais effectivement, de nos jours, c'est un idéal qui est difficile à atteindre ou à suivre.
C'est quand même intéressant dans votre livre là, que j'ai eu dans les derniers jours, c'est que oui, d'un côté, vous faites un peu l'éloge de l'intelligence artificielle puis des possibilités qu'on a, mais votre livre touche aussi hein, toutes les questions d'éthique, donc à quel point ça a deux côtés, en fait. Là. Donc ça, c'est intéressant. Et comment on peut, comment on évite les dérapages consciemment avec l'IA? Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter les dérapages?
Ben, je pense que c'est justement d'être conscient que oui, il y a des bénéfices, oui, c'est une bonne chose, qu'il y a toute une industrie derrière qui pousse quand même la technologie.
Oui, quand même, il y a beaucoup de gens qui poussent pour en mettre un peu partout, peut-être trop même.
Ben, il y a tout un marketing, ce qu'on appelle le hype, c'est quand même, c'est le fun, c'est nouveau, c'est intéressant. Il y a beaucoup de choses intéressantes, il y a beaucoup de choses qui vont être utiles parce que justement à cause du contexte social actuel, qui vont nécessiter avec le vieillissement de la population, le personnel qui est en nombre restreint, les familles qui s'épuisent, les gens font moins d'enfants, donc il y a moins de personnes pour s'occuper des aînés. Donc effectivement, il y a toute une pression sociale à la fois du manque d'aide puis de l'autre côté de l'industrie qui pousse beaucoup. Donc, il faut faire attention de ne pas tomber dans la solution magique puis penser que tout est rose et beau. Donc, oui, il y a beaucoup de bons, mais effectivement, il y a un risque que ça soit moins bon et mauvais. Donc, l'éthique a ce rôle-là aussi de mettre des garde-fous, de contrôler finalement les dérapages dont l'Observatoire, le BIA au Québec, là, qui s'occupe spécifiquement de ces questions-là. Il y a eu un gros sommet en France avec le Canada récemment. Donc, l'intelligence artificielle est beaucoup poussée aussi aux États-Unis avec le nouveau président, puis Elon Musk, on s'en sort pas. Donc, il y a quand même une force vers l'avant qui pousse pour que les technologies soient mises dans les soins. Mais effectivement, faut penser où on s'en va. C'est le but de l'éthique de penser qu'est-ce qu'on est en train de faire, où est-ce qu'on s'en va, puis est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut faire. Puis de peser les pour et les contre, effectivement.
C'est quoi le rôle de monsieur, madame, tout le monde dans tout ça? Qu'est-ce qu'on peut faire? On s'informe, on se questionne comme population qui ne sont pas des experts comme vous?
Ben oui, effectivement, parce que l'éthique, on a tous un peu un sens en dedans de nous de se dire, quand on dit ah, ça n'a pas de bon sens, ou ça c'est donc ben mauvais, ou ça vaut rien, ou ça je veux pas faire ça. On a un peu le sens en dedans de nous, c'est de le cultiver, en fait, ce qu'on appelle le sens éthique ou puis même le courage éthique, des fois de mettre son pied à terre, de dire non, moi c'est vraiment quelque chose que je veux pas. Puis ou à l'inverse, de dire ah oui, ça c'est vraiment quelque chose que je veux, je reconnais que c'est valable pour moi, c'est bon. C'est pas plus compliqué que ça, l'éthique, en fait. Des fois, on est un peu aveuglé aussi, on le reconnaît pas toujours, on n'ose pas parler, on n'ose pas mettre son pied à terre. Puis des fois, on se rend compte qu'en parlant, on est plusieurs à penser la même chose, puis que telle ou telle chose n'est pas nécessairement adéquate. Donc, la force du nombre, là, comme on peut dire. Donc, effectivement, c'est un peu monsieur, madame, tout le monde, qu'en mettant leur pied à terre, ils sont pas d'accord avec quelque chose qui va changer des choses, parce que c'est vrai que tout seul, dans son coin, si on n'est pas d'accord, on va se le faire imposer. Parce que si on est plusieurs à parler, à dire que c'est pas adéquat, puis à dire pourquoi, effectivement. Donc, c'est de cultiver ça, ce sens-là, qu'on a tous un petit peu en dans nous, mais des fois qu'on oublie ou qu'on se fait mettre de côté.
Est-ce qu'il y a des ressources pour apprendre un peu plus à s'informer hein, au niveau des enjeux éthiques hein, pour les gens que ça intéresserait d'en savoir plus puis de mieux connaître ça pour justement être un citoyen, un bon citoyen, une bonne citoyenne? Est-ce qu'il y a des ressources qui sont accessibles pour les gens qui ne sont pas dans le domaine universitaire?
Oui, ben c'est sûr que le livre qu'on a publié, ça s'adressait plus à un public universitaire. On vise à faire une deuxième édition plus grand public. Il y a quand même plusieurs ouvrages sur l'éthique de l'intelligence artificielle grand public. Il y a l'Observatoire sur l'intelligence artificielle utilisation des données, là, le OBIA, O-B-V-I-A, qui ont des ressources plus grand public. Mais c'est ça, puis d'écouter le genre d'émission que vous faites aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, c'est de rester à l'affût de ce qui existe. Puis il y a toutes sortes de niveaux de littératie au sens où il y a des choses qui sont très grand public, des choses qui sont très spécialisées. J'avoue que le livre qu'on écrit est plus spécialisé, mais on vise le plus grand public éventuellement.
Oui, c'est quand même difficile à lire hein, pour les gens qui n'y connaissent rien comme moi en intelligence artificielle. Là, j'ai quand même eu besoin de Google à quelques reprises, mais ça demeure très intéressant. Donc, le livre, pour l'instant aussi, est en anglais seulement. Est-ce qu'il y a une version francophone qui va apparaître?
Bien, c'est ça. C'est toujours l'enjeu du financement. Là, on travaille justement à faire financer une traduction encore là plus universitaire en français, puis une version en français encore là, mais plus grand public. Dans les prochains mois, là, rester à l'affût sans vouloir faire de la publicité, mais l'idée, c'est oui, de permettre l'accès au plus grand nombre là, à ce genre de connaissances-là. Parce qu'effectivement, des fois, l'éthique, ça fait peur, la robotique aussi. Au final, comme je dis, on a tous un peu ce sens-là en dedans de nous. Là.
Vous avez le droit de faire de la publicité, c'est votre projet, vous y avez travaillé longtemps, donc je vous donne le droit. Mais donc, pour ceux qui sont quand même à l'aise en anglais, où on peut se procurer le livre en ce moment?
C'est auprès de l'Université Laval, si vous faites une recherche Google ou autre moteur de recherche, mais sur le site de l'Université des presses de l'Université Laval, il est disponible en ce moment.
Est-ce qu'il est disponible en format PDF ou seulement en format papier?
Les deux.
Les PDF, deux? Parfait.
Papier, oui.
Donc, on invite les auditeurs et les auditrices à aller voir les presses de l'Université Laval qui, d'ailleurs, publient plusieurs livres intéressants là, chaque année qui viennent du monde universitaire, mais dans différents domaines. Et ils pourront y trouver, entre autres, votre livre qui est très intéressant, comme je le disais tout à l'heure, pour celles et ceux qui parlent anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ben on attend une version francophone dans les prochaines années. On espère que ce sera possible pour vous. En terminant, c'est quoi vos futurs projets? Vous avez parlé évidemment de pour le livre d'une autre édition un peu plus grand public. Mais outre ça, quels sont vos projets, Dr. Pageau, pour la suite?
Oui, ben j'ai eu un financement de recherche important là, pour étudier la qualité des soins gériatriques, dont l'initiation des technologies d'un point de vue éthique. Donc, un projet à plus large des déploiements là, dans la région de Québec, à la clinique de gériatrique de Québec, avec toute l'équipe, pour améliorer nos soins et évaluer justement les technologies qu'on utilise. Puis d'autres projets là avec des équipes sur les deepfakes, là, la création de deepfake, donc éduquer un peu plus la population avec Nadia Nassi, justement avec l'OBVIA qui nous a donné un financement. Donc, toutes sortes de projets au niveau technologique. Je m'intéresse aussi aux questions des demandes anticipées d'aide médicale à mourir. Donc, quelle répercussion ça a, à quel point les gens le font en pleine connaissance de cause et quel impact ça peut avoir sur les soins gériatriques, entre autres. Donc
vous allez être occupé dans les prochains mois, c'est ce qu'on comprend?
Oui, j'arrête pas.
Donc, merci d'être venu. Pour les gens qui veulent se procurer le livre, je rappelle, c'est auprès de l'Université Laval, donc qu'on peut trouver sur Internet. Donc, une petite recherche Google s'impose là, pour ceux qui sont intéressés à lire le livre. Et puis, on vous souhaite bonne chance dans vos futurs projets. Merci d'avoir été avec nous.
Merci à vous. Merci de vous intéresser à ce sujet.
C'était le Dr. Félix Pageau, gériatre bioéthnicien et auteur, pour parler de l'intelligence artificielle et de la suite des soins pour les personnes en situation de handicap et les personnes en gériatrie. Après la pause, on va voir quelques nouvelles.